Chers amis des cellules, bonjour. Nous abordons aujourd'hui la deuxième séance de notre module « La messe à la lumière de l'Évangile », deuxième module que l'on pourrait intituler « Entrer dans l'Alliance à la messe ». Après avoir observé la semaine dernière que la célébration de la messe nous permettait de revivre en concentré tout le parcours d'un évangile, nous regarderons aujourd'hui ce que nous apporte et ce à quoi nous engage chacune des parties de la messe. Nous avions observé la semaine dernière que la célébration de l'Eucharistie était composée de deux grandes liturgies, la liturgie de la parole d'une part, et la liturgie eucharistique d'autre part, et que ces deux grandes liturgies étaient encadrées par deux temps plus brefs, un premier temps le rite d'ouverture et le rite pénitentiel, et à la fin de la messe, le rite de conclusion et l'envoi. Attachons-nous maintenant au rite d'ouverture et au rite pénitentiel. Son objectif est d'établir un cadre particulier dans lequel l'alliance pourrait être entendue. Son objectif est d'établir un cadre particulier sans lequel, justement, il ne serait pas possible de vraiment entendre ce que le Seigneur veut nous dire. Premier élément, une unité de l'assemblée par le chant. Nous sommes appelés à ne faire qu'un seul cœur, à manifester que nous avançons non pas tout seuls, mais ensemble vers le Seigneur, que nous sommes là réunis en son nom. Ce chant, ordinairement un chant de louange, nous permet de prendre conscience de la bienveillance de Dieu à l'égard de son peuple, de la bienveillance de Dieu à notre égard. Et cette bienveillance est confirmée par les premières paroles du prêtre qui nous dit ceci, « La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. » Ou bien simplement « Le Seigneur soit avec vous » si c'est un évêque qui préside, « La paix soit avec vous. » Le premier cadre est cette ouverture dans une bienveillance. Nous allons avancer dans le cadre d'une bienveillance que Dieu nous accorde. Cette bienveillance est nécessaire pour faire un examen de notre vie, pour nous rendre compte que nous avons besoin d'un sauveur, pour oser examiner en vérité notre vie et prendre conscience que nous avons besoin, et ensemble et personnellement, de l'intervention d'un sauveur. Si ce cadre bienveillant n'était pas en place, nous risquerions d'avoir peur de faire cet examen en nous disant « Mais si jamais on découvre que je ne suis pas parfait, que je ne suis pas sans défaut, me laissera-t-on encore vivre? Ne serais-je pas éliminé comme le maillon faible ?» La bienveillance affirmée nous permet de relire notre histoire, de relire le temps de notre vie avec lucidité, vérité, en sachant que cet examen doit nous permettre de rencontrer le Sauveur. En prenant conscience de nos péchés, donc de nos refus d'aimer comme Dieu aime, nous implorons sa miséricorde pour que lui-même nous donne cette capacité, nous restaure dans cette capacité d'aimer comme lui. Nous nous présentons personnellement, mais nous nous présentons aussi les uns les autres. Je voudrais d'ailleurs relever un moment tout particulier de la liturgie. Vous avez peut-être remarqué que lorsque le prêtre dit « Prions le Seigneur », ensuite il laisse un temps de silence. Ce n'est pas pour reprendre sa respiration. Ce temps de silence est le moment qui est donné à chacun des membres du peuple de Dieu pour présenter leur intention particulière de ce jour. En effet, par le baptême, chaque baptisé est fait prêtre, prophète et roi. Et donc, en tant que prêtre, c'est son sacerdoce commun, il peut présenter au Seigneur une intention de prière particulière, une personne particulière pour cette célébration de l'Eucharistie. Ce temps de silence qui nous est donné nous est laissé pour pouvoir dire dans le secret de notre cœur devant le Seigneur « Je te présente telle personne qui a besoin de ton salut » ou « Je te présente telle intention sur laquelle j'ai besoin que ta grâce descende ». Souvent, les membres du peuple de Dieu n'ont pas conscience qu'ils ont cette possibilité de porter ainsi une intention de prière au cœur de l'Eucharistie. C'est bien dommage. Confiant dans la bienveillance de Dieu qui veut la paix sur la terre pour les hommes qu'il aime, et conscient de la nécessité pour nous de rencontrer le Sauveur, nous entrons dans la liturgie de la parole. Cette liturgie de la parole a pour objet de nous permettre de répondre à une question. Qui es-tu, Jésus? C'est la question que Jésus lui-même posa à ses disciples. Les gens disent que je suis Jean-Baptiste, d'autres disent que je suis Élie, d'autres Jérémie. Et vous, pour vous, qui suis-je? L'écoute de l'Ancien Testament, la façon dont vit la première communauté chrétienne, l'écoute de l'Évangile, doit nous permettre de répondre à cette question, nous invite à nous déterminer et de répondre à cette question. Notre réponse, un peu à l'image de celle de Pierre, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », se fera par une profession de foi. Et c'est pourquoi on récite le credo, le « Je crois en un seul Dieu ». La proclamation du « Je crois en un seul Dieu » est notre réponse à cette question « Qui est Jésus ?» Il est le Fils du Père, il est l'engendré dans l'Esprit Saint, il est notre Sauveur. Et nous le proclamons solennellement. La réponse à la question de Jésus « Pour vous, qui suis-je ?» à laquelle nous avons répondu par le credo, nous permet d'entendre une nouvelle question de Jésus « Veux-tu me suivre ?» Il est remarquable de voir que cette question de Jésus dans les évangiles oblige la liberté humaine à se déterminer, mais qu'elle ne la contraint pas. Il y a des gens à qui Jésus offre de le suivre qui refusent, certains le suivent, et à d'autres moments, Jésus vérifie auprès des apôtres leur désir de continuer à le suivre. Rappelez-vous la fin du discours du pain de vie en Jean 6, lorsque Jésus, sans donner aucune explication, annonce qu'il faut manger son corps et son sang pour avoir la vie, beaucoup de gens s'en vont à ce moment-là en disant « cette parole est trop dure ». Et Jésus interroge les apôtres, « Ne voulez-vous pas partir, vous aussi ?» Et Pierre va redire, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Il manifeste librement, il pourrait partir, qu'il veut continuer à suivre Jésus. Et nous manifestons notre désir de suivre Jésus dans la liturgie en faisant nôtre les soucis de son cœur. Si nous voulons le suivre, nous sommes sensibles à ce qui est important pour lui. Et c'est là que prend place la prière universelle. Nous contemplons notre monde, nous contemplons ses besoins, et nous les faisons monter vers le Père. C'est le souci du cœur de Dieu par rapport aux besoins du monde que nous faisons nôtre, et ainsi nous implorons le Père avec les intentions de prière que nous avons formulées. Pour résumer ce temps de la liturgie de la parole, on pourrait dire qu'il nous invite à répondre à la question « Qui est Jésus ?» et, ayant répondu, d'accepter d'entendre de Jésus cette question suivante « Veux-tu me suivre ?» et de lui répondre. Ce temps de la liturgie de la parole nous invite à écouter et à répondre. Notre volonté de le suivre va nous faire basculer dans la liturgie eucharistique. En effet, nous disons à Jésus que nous voulons le suivre et nous allons lui demander de nous ouvrir un chemin. En effet, pour aller là où Jésus va, il faut que lui-même nous ouvre un chemin. Vous vous souvenez peut-être de ces paroles de Jésus lors du dernier repas avec ses disciples, où il leur dit « Là où je vais, vous ne pouvez pas aller. » Je l'avais dit aux Juifs, je vous le dis maintenant à vous, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Et Pierre ne comprend pas, il dit « Mais Seigneur, moi je te suivrai jusqu'à la mort. » Et Jésus lui dit « Plus tard, tu me suivras. Pour le moment, tu ne peux pas encore. » Et il lui annonce son reniement. Le coq n'aura pas chanté que tu m'auras renié trois fois. Nous faisons l'expérience que nous pouvons avoir le désir de suivre Jésus, mais que nous n'avons pas seulement en nous la capacité de le faire. C'est ce qui se passe avec les apôtres. Ils avaient le désir de rester avec Jésus, mais au moment de l'arrestation, lorsque les gardes arrivent et que Jésus les appelle à ne pas se battre, à ne pas recourir à la violence, ça ne se passe pas comme ils l'avaient imaginé, et tous s'enfuient. Ils n'ont pas la force de continuer à le suivre. Pour pouvoir suivre Jésus, il va d'abord falloir qu'il trace ce chemin d'une humanité capable d'aimer jusqu'au bout, qui ne se laisse pas effrayer, qui ne renonce pas, et qui se livre tout entière. Il faudra que le Christ puisse dire « Tout est accompli » et qu'il ressuscite pour que le chemin de la suite du Christ nous soit ouvert. Tant que le Christ n'a pas encore ouvert ce chemin qui passe par sa mort et sa résurrection, aller avec lui, prétendre le suivre, c'est simplement courir au suicide, parce que nous ne pouvons être vainqueurs que par lui, avec lui et en lui, et non pas à côté de lui, en dehors de lui. Dans la liturgie eucharistique, nous contemplons Jésus qui rachète les péchés, qui font obstacle à l'amour. Nous contemplons Jésus qui, en allant jusqu'au bout, va rendre l'humanité capable à son tour d'aimer jusqu'au bout. Nous contemplons donc d'abord ce chemin où il va seul, il vit l'amour jusqu'au bout en s'offrant pour ses amis sur la croix, et nous contemplons aussi que ce chemin qu'il a ouvert, il nous le partage. Il partage sa puissance d'aimer qui fait jaillir la vie. C'est le sens de la communion de ses disciples au Jeudi Saint. Il leur donne sa chair et son sang. Il leur demande de faire cela en mémoire de lui pour que ce chemin qu'il trace nous devienne intérieur. En étant nourris de sa chair et de son sang, nous serons toutes unies à lui, et donc nous pourrons véritablement mettre nos pas dans les siens. La liturgie eucharistique est donc à la fois ce moment amer et ce moment merveilleux. Moment amer, comme en fit l'expérience saint Pierre, quand il se rendit compte qu'il n'aimait pas comme le Christ aimait, quand il se rendit compte qu'il était devenu un renégat, alors qu'il pensait pouvoir suivre le Christ. Et il faut que s'effondrent les illusions nées de notre orgueil ou de notre présomption. Mais moment merveilleux aussi, car sorti de cette présomption, c'est le temps où Jésus nous donne de pouvoir le suivre, nous confère de pouvoir le suivre, non plus fondé sur notre orgueil ou notre présomption, mais fondé sur sa grâce. Il nous partage sa propre vie. C'est vraiment sa victoire qui nous partage en donnant son corps et son sang. Ma victoire devient la tienne. Ma victoire devient la tienne. C'est pourquoi la liturgie eucharistique va nous conduire au rite de conclusion et d'envoi. Si sa victoire est devenue la nôtre, si désormais sa puissance d'aimer nous a été partagée, alors nous pouvons être ses témoins. C'est ce qu'il avait annoncé à Pierre. « Plus tard, tu me suivras. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Nous sommes envoyés dans le monde pour redonner la fermeté à nos frères par la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection. » Jésus nous envoie en mission dans le monde pour vivre comme lui, pour témoigner que nous vivons comme lui, pour témoigner que vivre comme lui est désormais possible, puisqu'il nous partage sa grâce et son esprit. En résumé, dans la liturgie eucharistique, nous avons manifesté notre désir de suivre Jésus, et nous avons accepté qu'il fallait d'abord qu'il nous ouvrît un chemin. Et ce chemin étant ouvert, Jésus nous dit « Suis-moi et va, va dans le monde, puisque désormais nourri de ma vie, tu es mon témoin, tu es le témoin de la vie répandue pour tous dans le monde. » Ainsi, notre participation à la communion est une suite et un engagement de Jésus. Il y a un engagement que nous prenons en recevant le corps et le sang du Christ. Nous ne le recevons pas simplement pour notre équilibre personnel, nous le recevons pour notre vie et pour porter la vie au monde. Si nous n'intégrons pas cette nécessité de porter la vie au monde, en fait, nous ne demandons pas vraiment le corps de Jésus livré pour le salut du monde. Vivre la liturgie eucharistique, c'est suivre Jésus sur le chemin qu'il nous a ouvert pour s'engager à être son témoin dans le monde. Au terme de cet enseignement, je vous propose comme suggestion pour la semaine que lorsque vous participerez à l'Eucharistie, vous veniez avec une intention de prière particulière que vous présentez à ce moment particulier où, au début de la messe, le prêtre a dit « Prions le Seigneur », laisse un temps de silence et ensuite enchaîne l'oraison. Dans le temps de silence entre le « Prions le Seigneur » et l'oraison, faites monter vers Dieu l'intention particulière que vous portez en tant que membre du peuple de Dieu, peuple de baptisés, donc prêtre, prophètes et rois. Bons échanges.